Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour.
Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Cette semaine, et la semaine prochaine d'ailleurs, nous allons avoir la joie de vous offrir une émission très particulière. Il ne s'agira pas d'une émission sur les auteurs de poésie, mais nous sommes ici à Radio Occitanie, et Radio Occitanie a toujours eu la volonté de faire connaître les événements culturels marquants de notre cité, et il n'en manque pas. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, comme la semaine prochaine, nous allons parler d'une institution toulousaine, et il serait temps d'en parler, il s'agit du théâtre Cornet Adé.
Alors, le théâtre du Cornet Adé, c'est évidemment pour moi une vieille connaissance, puisque j'ai eu la chance, du fait de mon âge, tout simplement, et du fait que j'étais élève à Berthelot, et qu'on allait voir, évidemment, dès que l'on a pu. Donc, ce théâtre du Cornet Adé, dont très tôt j'ai eu le plaisir de voir la troupe de Jean-Pierre Armand. Et nous avons ce soir dans notre studio Jean-Pierre Armand et Raphaël Breil, donc qui sont venus nous parler de ce théâtre de Cornet Adé, de leurs activités dans ce théâtre et évidemment de toutes les représentations qu'ils ont données, et en particulier des représentations qui vont avoir lieu dans et qui ont lieu maintenant au moment où on vous parle et dans les mois qui vont arriver. Voilà. Alors Jean-Pierre Armand, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Raphaël Breil, bonjour. Alors Raphaël, lui, il intervient pour un spectacle sur Jacques Brel.
C'est ça.
Voilà. Et Jean-Pierre Armand, donc qui est le metteur en scène. À qui on doit tous ces spectacles, la mise en composition donc de l'ensemble de ces spectacles, et qui donc a commencé, tout ceci a commencé en 1968,
c'est bien voilà, ça. Voilà, juste après les événements,
voilà.
Juste après la création de la cave poésie de René Bouzène et du théâtre de l'acte de Michel Mathieu, et puis nous sommes arrivés là tout de suite après.
Voilà. Donc 57 ans d'activité, 57 ans. Je crois qu'il y a peu d'institutions comme ça, d'associations qui se sont lancées en 1968 et qui ont pu soutenir une telle activité avec un tel bonheur quand même.
Oui.
Donc il fallait vraiment en parler. Et je suis très heureux vraiment que vous ayez accepté de venir ici en parler à Radio Occitanie. Alors, 57 ans d'activité, je dirais, non-stop, sans interruption, avec des créations originales, 53 créations originales.
Oui.
Donc, 5 trilogies, donc sur les œuvres de Francisco Goya,
oui.
Jérôme Bosch. Et je me souviens que Serge Peille avait fait un gros travail aussi sur Jérôme Bosch.
Tout à fait.
Valère Novarina.
Oui.
Valère Novarina. Et qui est pour moi un petit peu un petit pincement au cœur, parce que Valère Novarina, notre ami Thierry Tools, alias Capitaine Slam, avait fait une thèse sur Valère Novarina.
D'ailleurs, pour le premier spectacle que j'ai fait venir Valère Novarina, et j'ai demandé à Thierry Tools de m'assister, compte tenu qu'il connaissait très bien l'œuvre de Valère Novarina. Il m'a assisté pour ce spectacle.
Très bien. Oui, bien, voilà. Donc, une pensée pour Thierry Tools, qui était un habitué de ce studio, et pour lequel j'avais vraiment beaucoup d'estime à tous les points de vue. Point de vue artistique, mais également, je dirais, au point de vue éthique. Comme,
tout à fait. Oui.
Alors, également une création sur Henri Michaud.
Oui.
Qui était très à la mode trois spectacles. Oui. Et puis Claude Louis Combet.
Oui.
Et puis alors tout ça, ces créations, elles sont nées toutes à Toulouse.
Toutes à Toulouse. Les lieux les plus illustres de Toulouse, Sorano, au Garonne, jusqu'à
Saint-Pierre des Cuisines,
voilà. L'espace Potier, l'église Saint-Pierre des Chartreux, le temple du Salin. etc. Je crois qu'on a fait toutes les.
Et même la cour d'honneur de l'hôtel d'Acesa.
Exactement.
Voilà, que nous saluons aussi, puisque c'est le siège de l'Académie des Jeux Floraux.
Tout à fait. Ouais. C'est eux qui nous ont fait venir, d'ailleurs, où on a monté le grand poète François Villon. Oui. Avec Philippe Pointin. Et Dominique Rejeff, qui était à la Vielle à Rouen. Oui. Donc c'était un spectacle pendant 15 jours qui a été fantastique.
Oui. Alors vous voyez là, ce qu'il y a aussi, ce qu'on peut retenir, c'est cette imprégnation poétique aussi. Hein. François Villon, tu parlais de François Villon.
Oui.
Tu as les poètes Henri Michaud.
Oui.
Il y a une volonté aussi de mettre les poètes en exergue et en scène.
Oui, hein, parce que dans un premier temps, ensemble, le théâtre Cornéadé, le Cornéadé, ça vient d'ailleurs de l'œuvre de Max Jacob.
Jacob.
Hein, le Cornéadé, et pour moi, j'ai trouvé que c'était un titre magnifique.
Oui, tout à fait.
Parce que le jeu de dés, l'aléatoire, le risque, tout ça, voilà. Oui. Donc on a commencé au départ. On a commencé à faire les premières préparations juste avant le Cornéadé au cratère avec Michel Bacle, qui animait le lieu.
Oui.
Et nos premiers montages poétiques, on a été ancrés d'abord par la poésie, avec entouré par Henri Hurtubise, Claude Saguet.
Alors ça c'est ma période. Hein, j'ai bien connu ça.
Voilà.
C'était juste avant, oui, effectivement, le Cornéadé,
et
où il y avait des comédiens du théâtre Sorano, qui venait, Liberto Pérez.
Liberto Pérez.
Lorca à la Cinco de l'Otale, etc. Et donc ça a été quelque chose d'assez important, ça.
Oui, nos activités.
Il y avait du monde qui venait. Et Michel Bacle réussissait à faire revenir le monde du quartier Saint-Michel.
Oui,
les gens du quartier venaient assister à ces moments de poésie qui étaient des moments intenses.
Là. Tout à fait. Et Henri Long a eu écho de toutes ces activités. Henri Long, qui était le bras droit de Maurice Sarrazin à l'époque, est venu voir une de nos montages poétiques, comme on disait avant, les montages poétiques. Ça, et il a trouvé ça tellement surprenant qu'il nous a programmé directement dans le cadre du théâtre Sorano en 69.
Voilà. Oui, alors 69, c'est déjà l'époque de la cave poésie, hein, qui va commencer.
Exactement.
René Gouzène qui trouve cette cave, qui l'aménage avec Nicole, avec Catala,
avec Daniel Catala,
qu'on salue aussi. Et donc après le. Ça y est, ça démarre. Jean-Pierre Armand a trouvé sa vocation et c'est en continu jusqu'à aujourd'hui.
Et on a même créé au cratère, donc au début, un spectacle sur Alfred Jarry, Cornegidouille.
Ah oui, je me souviens de ça. Oui.
Où on a été, ça a fait un scandale. Oui. Ça a été même un spectacle plus ou moins censuré. On voulait le jouer à Saint-Cernin, ça a été censuré. Alors pensez de nos jours ce que ça serait. Et on a été quand même élu pour être grand maître du collège de pataphysique, que nous sommes encore.
Alors le Cornéadé a interprété plus de 20 auteurs. On va les rappeler les principaux. Donc il y a eu Marie Dariussec. Elizondo, et Martin Elizondo.
Oui, Martin Elizondo, Marc Triard, qui est un Toulousain aussi.
Oui.
Alors, Christian Laborde, Los Dionysos, on en reparlera peut-être après.
Oui.
Serge Peille, bien sûr.
Oui. Enzo Corman. Oui. Voilà. Et puis, vous avez bénéficié, Cornéadé, quand même, de la collaboration de gens qui sont de véritables. Grand personnage de la musique contemporaine.
Tout à fait.
Comme Bernard Lubin.
Oui, Bernard Lubin nous a fait des musiques pour nos spectacles, notamment pour Los Dionysos, Christian Laborde, qu'on a créé chez lui à Uzest musical.
Oui,
il y avait bien sûr qui est venu Claude Nougaro, etc.
Oui.
Ça a été des souvenirs magnifiques. Ouais. Ouais. Il y a eu Antonio Ruiz qui nous a fait de très belles musiques aussi. Kiko. Très connu,
Kiko, oui.
Salvador Paterna, Edouard Garcia, Jean-Raymond Gélis, et François Rabat, qui était un très très grand bassiste à l'époque, et puis Raphaël Breil, qui a fait deux musiques pour nos spectacles. Et notamment, on en reparlera prochainement, toutes les adaptations de notre spectacle sur Brel Debout. Il a fait les adaptations des musiques, il les interprète bien sûr, et il les chante en même temps. Voilà.
Donc même beaucoup de bénéficier de beaucoup de talents. Il faut savoir les susciter, quand même, ces talents. Et puis surtout, ça veut bien dire aussi que tous ces gens ont fait confiance. Dans la mesure où ils ont collaboré comme ça.
Oui, par rapport à aujourd'hui, au théâtre qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on faisait avant les choses beaucoup plus dans l'immédiateté, dans l'envie, dans la passion, dans le désir. On ne calculait pas les projections. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais eu de carnet d'adresse, vous voyez, donc je faisais ça dans l'instant. Et dès que j'avais fini une création, je pensais déjà à l'autre. Donc l'exploitation, la diffusion, ça n'y était pas. Maintenant, on fait presque l'inverse.
Oui, c'est absolument
l'inverse. Il faut des coproductions. Si on n'a pas des coproductions, on n'est pas financé par la DRAC, etc. Donc c'est tout à fait une démarche complètement différente qui se passe.
Oui, je comprends très bien. J'ai vu ça.
Bon, j'ai été donc
une inversion des valeurs un peu quand même.
Oui,
hein, j'ai été la communication a pris le dessus sur tout le reste.
J'ai eu la chance aussi sur mes thématiques de pouvoir rencontrer Jerzy Grotowski, qui est l'un des plus grands maîtres du théâtre contemporain. À l'époque, il n'était pas connu. Je l'ai connu à Amsterdam. En 70, alors Jerzy Grotowski, c'était le théâtre pauvre, pas de costume, un pagne, pas d'effet d'éclairage, pas de musique. Le théâtre, c'était uniquement que l'acteur. La voix, c'était du corps. Tout était sur le corps. Voilà, et ça m'a appris beaucoup. Et quand je suis donc revenu en France en 70... et que j'ai retrouvé mes amis du grenier de Toulouse, j'avais l'impression qu'ils étaient au Moyen-Âge.
À ce point. Et comment tu avais eu l'idée d'aller là-bas parce que,
c'est justement Henri Long qui m'avait dit, écoute, il y a Jerzy Grotowski...
Très étonnant.
Oui, Jerzy Grotowski qui fait des stages. Il s'apprêtait à monter le Théâtre des Sources. C'était encore à l'époque le théâtre laboratoire, on appelait ça. Et il n'était pas du tout connu, mais enfin, il avait une position tellement radicale sur l'acteur et sur le théâtre. Que j'y suis allé pour m'imprégner de son théâtre. Il avait avec lui en plus un acteur dont on parle très peu, je ne me souviens plus le nom, c'est un Polonais, parce que Jerzy Grotowski est Polonais, et cet acteur, en somme, les rôles se sont inversés, il en a appris à Jerzy Grotowski, chose que l'on ne sait pas du tout de nos jours, mais il avait une voix, c'était un Africain il fait toutes les rituels de toutes les ce que l'on faisait en Afrique et il en a imposé à Grotowski qui est allé bien sûr dans ce sens aussi parce que ça lui parlait et ça m'a révélé moi le théâtre que je fais actuellement.
Bon. Il y a une grande originalité qui t'a permis effectivement après de pouvoir être plus à l'aise dans tes créations.
Tout à fait, oui.
Alors, on va vite parler de toi. Tu es un fils d'artiste, comme on dit, puisque ton père était violoniste.
Oui, il était le violon solo du théâtre du Capitole. Puis il a créé avec Louis Riacombe l'Orchestre de Chambre Nationale de Toulouse. Donc, c'était un très grand musicien qui a fait une carrière de concertiste 4 ou 5 fois le tour du monde. Et bien sûr, j'étais très bien placé pour lui demander des musiques pour mes spectacles. Ça m'a économisé beaucoup de sous.
D'accord. Et ta mère était comédienne.
Ma mère était comédienne à la RTF à l'époque. Oui. Là, vous avez Jean Jaurès. Et puis elle a été aussi au Grenier de Toulouse. Au départ du Grenier de Toulouse. Le Grenier de Toulouse, je parle de Simon Le Turc et de Maurice Sarrazin. Voilà. Et puis surtout, mais ce qui est, où j'ai le plus appris au théâtre, c'est par ma grand-mère. Ma grand-mère était ouvreuse au théâtre du Capitole. Et quand j'étais jeune, entre 5 ans et 10 ans, bien sûr, elle me gardait souvent. Elle me prenait avec elle au théâtre du Capitole. Et là, j'ai vu pendant 5-6 ans toute la série des galas Carcenti-Herbert, qui à l'époque était très connu. Donc j'ai vu 4 ou 5 fois de suite toutes les opérettes, de l'Auberge du Cheval Blanc à tous les opéras de Verdi, etc. Et ça, voir cette féerie sur le plateau avec les lumières, les décors qui s'enlevaient, qui venaient, c'est ce qui m'a le plus appris ça.
Oui, qui a été certainement aussi à l'origine de cette vocation.
Oui, je pense que ça vient plutôt de ma grand-mère que j'adorais et qui m'a permis, sans le savoir, en somme, de me brancher sur le théâtre.
Alors, il y a eu une grande rencontre aussi, c'est celle de Fernando Arrabal.
Oui. Oui, alors j'ai rencontré...
C'était en 70, c'était un personnage... très important.
Oui, Fernando Arrabal, on se souvient de son film Viva la Muerte, et J'irai comme un cheval fou, qui a écrit, qui est un dramaturge qui vit encore, qui est un dramaturge qui a, dans les années 70, défrayé les chroniques.
Oui, oui.
Et je l'ai rencontré à Paris, chez lui, avec des tableaux qu'il avait chez lui, de Marx Ernst, de Picasso, tout ça. Et on devait monter une... Parce que le Corneade, ce sont que des créations originales. C'est des spectacles qui n'ont jamais été montés. Ni dans le classique, ni rien. Ce sont soit des montages de textes inédits, soit des textes imaginaires venus de grands poètes ou de grands peintres, comme Goya et Jérôme Bosch. Et avec Fernando Arrabal, ce message qu'il lançait sur la cruauté, sur la vie, sur la mort, son engagement politique me plaisait énormément, le cimetière des voitures, tout ça. On devait choisir dans ces textes inédits un spectacle, mais ça ne s'est jamais fait. Il y a eu des fois des rencontres, comme avec Roland Topor aussi, à peu près un peu plus loin. La même année, j'ai rencontré Roland Topor, qui est un magnifique... dessinateur et là aussi donc j'ai utilisé, avec sa permission bien sûr, des tas de dessins qu'il a fait dans un autre spectacle sur Henri Michaud avec ses dessins montrés au public.
Fernando Arrabal, oui, c'était très, très marquant, je me souviens de Cri a Cuervos.
Oui.
Et puis en 70 c'était quand même l'année où le franquisme arrivé un petit peu à sa fin et où il y avait un mouvement assez terrible de répression.
Oui.
Une espèce de regain de la répression qui était une répression très, comment dirais-je, un petit peu à la fois très cachée mais très vive aussi.
Oui.
Voilà. Et donc Arrabal a incarné aussi ce mouvement.
Ah oui, d'ailleurs ces deux films qu'il a créés, dont dans les années 70, a marqué vraiment la cinématographie en France.
Oui.
J'irai comme un cheval fou et Viva la Muerte, ça a été vraiment très 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 fort.
Alors donc, des spectacles depuis 1970, tu l'as dit tout à l'heure, c'est essentiellement donc des montages, montage poétique sur des œuvres qui peuvent être aussi des œuvres musicales, sur Eric Satie. Tu avais commencé sur Eric Satie.
Ah oui, Eric Satie qui est un compositeur que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, Raphaël Braille ici pourra confirmer.
Là, je confirme. C'est la rencontre 92. Pour moi, c'est en 92, 1992. Et c'est par le biais d'Eric Satie que j'ai rencontré Jean-Pierre Armand. Et c'était assez savoureux parce que je travaillais avec un chanteur et une chanteuse de sa troupe. Et un jour, Jean-Pierre vient me voir en me demandant, on se connaissait via le chanteur que j'accompagnais et pour qui j'écrivais les chansons. Et il me demandait si je connaissais l'œuvre de Satie, parce qu'il avait un projet sur l'œuvre de Satie. Voilà. Et j'ai dit oui, mais j'avais pas. J'étais au conservatoire à l'époque, mais j'étais dans d'autres domaines que Eric Satie. était en préparation du prix. Et donc là, c'est d'autres pièces que l'œuvre de Satie. Donc j'y ai dit oui, je connaissais pas grand-chose, mais je suis vite allé dans un magasin de musique qui existe encore à Toulouse. J'ai acheté toute l'œuvre de Satie. Et conjointement aux études de conservatoire, j'ai bossé toute l'œuvre d'Éric Satie, voilà, jusqu'à ce que le projet soit en fait un mélange avec le chanteur et la chanteuse pour qui qui j'avais écrit des chansons, j'avais fait les musiques, eux ils avaient fait les paroles, mais c'est grâce à cette rencontre que je connais bien Satie. Et qui m'a valu quelques récompenses après, mais au conservatoire avec des exposés, en fait ça m'a servi et ça m'a donné si je faisais 10 heures de piano par jour, je remercierais jamais assez Jean-Pierre Armand pour Éric Satie.
Excellent. Alors sachez que ici j'ai fait des émissions avec Henri Hurtubise dans les années 80, déjà dans les années 80, et il a imposé toujours que l'on fasse une pause musicale avec une œuvre d'Éric Satie. Donc, il partageait avec vous cette passion donc pour l'œuvre d'Éric Satie.
Ça je savais pas. Henri Hurtubise.
Ah oui, il ne voulait que ça. Il ne voulait que ça, c'est très curieux. Bon, des fois, ça, c'était un peu, mais bon.
Voilà. D'ailleurs, notre premier spectacle, qui nous a valu beaucoup, beaucoup de succès et un début fantastique au Théâtre Sorano, d'entrée, quand vous êtes une jeune compagnie, que vous avez 20 ans et que vous êtes programmé au Grenier de Toulouse, au Théâtre Sorano. Notre spectacle s'appelait Peccadilli Importune, sur un thème musical d'Éric Satie. On passait de grandes œuvres d'Éric Satie et on disait les poèmes à quatre voix. Oui. Chose qui ne se faisait pas à l'époque, sauf les poémiens à Paris que j'ai rencontrés et qui faisaient ce genre de travail. Et on a continué ce genre de travail en travaillant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne s'agissait pas de dire les poèmes comme ça ou les auteurs qui disaient leurs propres poèmes. Ça ne convenait pas à nous. Il y avait un côté un peu ampoulé, tout ça. Oui. On les disait, nous, franco, mais il y avait énormément de travail en dessous.
Oui. Ça plairait à Bruno Ruiz, ça.
Oui.
Ce travail sur la voix.
Oui.
Bon, on va... Alors, c'est un défilé, donc, de... Ah, je me souviens de Corneguidouille. Me souviens de ça, évidemment. Tu en as parlé un peu, non, tout à l'heure?
Oui, Corneguidouille. Corneguidouille, je me souviens très bien. Michel Barthes avait fait une exposition sur l'œuvre de Jarry avec ses propres tableaux aussi. Et c'était, bien sûr, à l'époque, on ne se posait pas de questions de censure. D'ailleurs, il y avait une liberté d'expression beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. C'est un genre de spectacle qui ne pourrait plus passer. Il a été interdit au lycée Saint-Sernin. C'était encore à l'époque un lycée de jeunes filles.
Oui. Avec Michel Bach qui occupait donc là où est le cinéma Le Cratère actuellement,
tout à fait.
Qui n'existait pas à cette époque-là, et qui était une annexe en fait de l'école de
Pierre
Dupont, qui est juste à côté.
Tout à fait.
Voilà. Et donc que Michel Bach avait occupé d'une façon péremptoire et sans aucune autre autorisation que la sienne.
Oui, il vient de me dire d'ailleurs, Michel Bach, qu'il aurait pu être à la place de René Gouzène pour créer la cave poésie. René Gouzène l'avait proposé, après il n'a pas pu, et c'est René Gouzène avec Daniel Catala qui l'a monté, en creusant la terre, jour et nuit, pendant un an, et ils ont fait la cave poésie. C'est comme ça.
Oui.
Et bien sûr, on a créé au moins une douzaine de spectacles de la cave poésie dans ces années-là, dans ces années 70 et 80.
Oui. Alors Michel Bapt, qui est un grand, évidemment, un grand plasticien, essentiellement.
Tout à fait. Il l'est encore.
Oui, il est un grand plasticien. Il y a eu des expositions, d'ailleurs, avec le département récemment. Qui avait la particularité d'abord de lire les textes, il aimait lire les textes, et puis il jouait de la batterie, je me souviens.
Tout à fait,
Il jouait de la batterie.
Ah, c'était une grande époque, ça.
Ensuite, vous êtes passé à Francisco Goya avec La Folie, et puis Français comme François Villon. Et donc là aussi, on retrouve un des grands poètes français. Avec une modernité extraordinaire, François Villon encore.
Le poète préféré de Georges Leroy Sens.
Oui. Et on le comprend. Ouais. Ça continue. Il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer, c'est trop long. Mais peut-être image d'une mise à mort.
Oui, de Martin Elizondo, qui était à l'époque ici, un espagnol réfugié, jamais... qui travaillait avec le Grenier de Toulouse. Et qui nous a écrit, qui a écrit donc, et qu'on a créé un texte magnifique sur la corrida, sur la tauromachie, qu'on a créé au Centre culturel de Toulouse.
La salle bleue, ce qu'on appelait.
À la salle bleue, oui, avec avec le pilier, là-haut au milieu.
Voilà, oui, c'est ça.
Avec Maya, Philippe Quentin et Dominique Comé. Oui. Ça a été aussi un très grand souvenir.
Et puis, même sur le plan graphique, avec les dessins de Hans Bellmer, Poupée et Jeux secrets.
Oui, Hans Bellmer, qui n'est pas trop connu enfin, par le grand public, et Henri Long qui m'avait fait connaître, et j'ai monté un spectacle, c'était assez osé, il fallait le faire surtout enfin, à la salle bleue, et ça a été un spectacle aussi qui était décrié, parce que moi j'aimais travailler sur le corps, sur le nu, pas le nu pornographique, mais le nu poétique.
Oui, quand on connaît l'œuvre de
voilà,
Bellmer.
Voilà. Et donc, voilà, ça a été un spectacle dont on a parlé aussi, pas mal. Et puis il y a eu des rencontres après internationales de poésie organisées par Serge Pey, où on a créé pendant deux fois, il a créé, je crois ça, deux fois, deux années coup sur coup, on a créé des spectacles donc à la cave poésie et surtout à la Halle-aux-Grins.
Voilà. Oui, qui était plein d'ailleurs. Hein.
Qui était plein. Et voilà, on disait des poètes. Vous savez, notre.
Ça ne s'est jamais reproduit, ça.
Non. Notre parcours est égrené de tas de poésie. On a fait connaître Miloche, surtout que j'adore Miloche. C'était, voilà. Et.
Voilà, bon, et ça continue, Michaud, la Nef des Fous aussi, c'est quand même à citer. Hein,
la Nef des Fous, oui, qu'on a créé à la chapelle des Carmélites, où Bartholomé Benassar, qui était le directeur de la faculté, nous a écrit dès le lendemain un papier magnifique sur ça. On a créé le spectacle dans la Nef, carrément, de la chapelle des Carmélites. Où il a fallu prendre d'ailleurs une assurance, une loi, parce qu'aucune assurance en France ne voulait
nous couvrir.
Vu le lieu, et voilà, ça s'est très bien passé, trois semaines en suivant. Et...
Tu y associes donc la danse, avec la chorégraphie.
Oui, Michel Ragy a travaillé toutes les chorégraphies de ce spectacle.
Michel Ragy, on le regrette beaucoup qu'il soit plus à Toulouse.
Oui, c'est pas mal, mais il travaillait beaucoup seul. Il fait ses performances seul.
Oui, mais sur des œuvres poétiques.
Tout à fait.
Chose, en particulier sur Claude Barrère, une de ses dernières. Il avait à l'école des Beaux-Arts. Voilà, et puis ça continue donc jusqu'à maintenant. On va parler peut-être, mais le temps passe vite, je vais peut-être un petit peu accélérer. On va parler de l'os de Dionysos quand même pour la.
Ah oui, alors l'os de Dionysos, c'est un. qui a défrayé les chroniques donc en 87 par là. C'est le livre qui a été écrit par Christian Laborde, et c'est le dernier livre en France qui a été censuré. Carrément, un livre censuré en France en 87 par le ministre Mounouri, etc. Et ce livre qui a été censuré a été réédité sous l'interdiction par Régine de Forge, qui l'a réhabilité. Et moi, entre-temps, je l'ai mis en scène dans une création originale avec. Et ça s'est passé ça au Forum des Cordeliers, avec une musique de Bernard Lubat, et avec des arrangements aussi de Claude Nougaro. Ça a été un événement assez important dans notre parcours.
Oui. Forum des Cordeliers, c'est là où était où a travaillé ensuite.
C'était rue des Lois.
Oui, rue des Lois, mais ça a été là où il y avait l'archéopétrix.
Oui, c'est ça.
C'est ça,
Armand Gatti. Armand Gatti, oui, tout à fait. Voilà. Oui, que j'ai rencontré aussi quand il montait les chroniques d'une planète provisoire. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez que le théâtre Soranon, que dirigeait à l'époque Maurice Sarrazin, a été arrêté, a été fermé parce que Maurice Sarrazin avait osé annuler toute sa programmation pour imposer les trois spectacles de Armand Gatti à l'époque. Ah oui. Il a été censuré pour ça. Ah oui. Et il est allé après au théâtre de la Digue. Ah oui. C'est quand même un événement fort.
Extraordinaire. Armand Gatti, quel personnage.
Armand Gatti,
extraordinaire.
Ah oui. Le poisson noir.
Extraordinaire.
Le poisson noir, les chroniques d'une planète provisoire. C'était un travail fantastique qu'il a fait dans les prisons, etc.
Alors, nous allons peut-être passer directement au spectacle, donc dernier spectacle, qui est un spectacle sur Camille Claudel.
Alors, Camille Claudel, c'est pour moi un spectacle très important. Moi, j'ai rencontré, en somme, j'ai lu d'abord le livre de Anne Delbé, c'est elle qui a fait connaître l'œuvre de Camille Claudel. Et qui a écrit Une femme, qui a remporté un grand prix du livre, etc. Et puis tout de suite après, il y a eu le film de Newton sur Camille Claudel avec Depardieu et Adjani, qui ont vraiment marqué les esprits. Et je dis ça, il faut que je monte ce spectacle, dont j'en ai fait une adaptation originale, avec une musique fantastique du monsieur qui est là, Raphaël Breil. Qui a porté de manière phénoménale ce spectacle que nous travaillons et que nous présentons depuis 2010. Alors, dans des petites versions qui sont enrichies, bien sûr, avec le temps, nous sommes à la quatrième Camille Claudel déjà, et qui est en ce moment peut-être. Dans la lignée de André Castelli, qui vient d'écrire un livre fantastique qui s'appelle L'Abandonné, et qui fait, avec son association, un projet de panthéonisation sur Camille Claudel. Alors, en espérant que ça arrive, donc on va l'aider avec notre spectacle, et en espérant que ça réussisse.
Oui, l'espérons aussi. Alors, on rappelle que André Castelli, Camille l'Abandonné, est aux éditions NU, avec un accent, maison d'édition. Hein. NU, maison d'édition. Vous trouverez ces renseignements sur le site qui va reprendre cette émission, le site lespoètes.site. Alors, si tu veux bien, Jean-Pierre Armand, nous allons écouter tout de suite. Un extrait de ce spectacle en ayant au préalable expliqué un petit peu à quel moment on se situe. On se situe donc dans la vie de Camille Claudel en 1913, hein, c'est bien ça?
Oui, alors la tragédie de cette femme élève de Rodin, d'Auguste Rodin, qui a été après son amante et son égérie. Oui. A eu une vie catastrophique. Elle a, en somme, 30 ans d'œuvre, 30 ans d'internement. Oui. Sa famille, pour citer son frère, Paul Claudel, et sa mère, l'ont enfermée, l'ont fait interner. Et c'est arrivé ça une semaine après la mort de son père. Parce que Prosper Claudel, le père de Camille et de Paul Claudel, soutenait Camille. Et ce qui est arrivé de terrible, c'est qu'on a attendu presque la mort du père pour enfermer Camille. Je vous en donnerai les raisons après.
Oui, oui, on l'écoute.
Et puis, il a fallu intervenir. Les locataires de cette vieille maison du Quai Bourbon se plaignaient. En juillet 1913, les employés de l'hôpital pénétrèrent par le fond de la pièce et mirent la main sur l'habitante terrifiée qui, depuis longtemps, les attendait, au milieu de plâtre et de glaise desséchés. Le désordre et la saleté étaient indescriptibles. Au mur, accrochées, les 14 stations du chemin de croix. Dehors, l'ambulance attendait. Et voilà.
Voilà, donc c'était un extrait. À quel moment se situe ce que l'on vient d'écouter?
Alors, c'était en 1913. Camille Claudel était séparée de Rodin et elle travaillait toute seule au Quai Bourbon. Elle travaillait dans la pauvreté la plus extrême. C'était pas possible qu'elle continue comme ça, en effet. Et son frère, qui était devenu un grand diplomate, ne pouvait pas, en somme, s'occuper d'elle. Sa mère ne voulait plus la voir. Donc, une fois que le père a été mort, parce que le père, comme je vous ai dit, l'a protégé, eh ben, ils ont décidé, Paul Claudel et sa mère, et Berthelot, un ami de la famille, qui était diplomate lui aussi, ont averti les secours, les infirmiers, et ils sont allés la prendre dans son habitacle et ils l'ont internée à Ville-Avril, qui était un hôpital psychiatrique près de Paris. Elle y restait un an, et au bout d'un an, donc, ils l'ont rapatriée parce qu'il y avait la guerre qui commençait. Donc les Allemands qui envahissaient la France par le nord, et elle est allée donc après à Montfavet, à Mondeberg, près d'Avignon.
Qui était en zone libre à l'époque.
Voilà.
C'est assez terrible de cet internement de force survenu comme ça.
Oui.
Avec un frère qui était quand même une sommité.
Oui, tout à fait. Oui, alors. Je crois qu'il s'en est pas repenti, mais il a douté toute sa vie, Paul Claudel, pour savoir si vraiment il avait bien fait de faire interner sa sœur. Mais alors là, il en parle d'ailleurs dans toute son œuvre. Toute son œuvre est criblée de clins d'œil par rapport à l'internement de sa sœur. Mais le fait, c'est que il avait la foi, il avait la foi pour lui.
Oui.
Mais enfin, ça a été encore une fois, et c'est sujet depuis une dizaine d'années, vous savez, où on en parle de plus en plus de Camille Claudel et de cela. Mais je vais vous faire écouter. On va écouter un deuxième passage avec la voix de Patrick Sabourin qui prête la voix à Paul Claudel.
Mon petit Paul, le son de ma voix est parvenu jusqu'à elle, parvenu de plus loin que le moment présent. Ma pauvre sœur Camille, dans la cité de douleur où depuis 30 ans elle consume une existence infortunée, bientôt 80 ans, et dans un dernier éclair de raison, elle s'est souvenue de moi. Elle va mourir. Elle m'appelle. Mon petit Paul. Mon petit Paul. Ma sœur Camille. C'est fini. Avons-nous fait, les parents et moi, tout ce que nous pouvions? Je baise cette figure terrible et cependant illuminée. Ce front puissant dont l'âge a dégagé la majesté, et où le malheur ni la maladie n'ont pu effacer la marque auguste du génie. Sur l'oreiller de ce lit d'hôpital, il n'y a plus que ce crâne, comme un monument désaffecté dont se révèle à moi la magnifique architecture. Le Dieu, à la fin solennellement, se dégageant des injures du malheur et de la vieillesse. Camille, Camille Claudel.
Bien, donc là, c'était la voix de Patrick Sabourin. Hein.
Oui.
Il parle de donc mon petit Paul.
Oui.
Donc, le Paul, c'est évidemment
le frère de Camille, oui.
Oui.
Alors, on voit en même temps un certain engouement pour cette histoire de cette pauvre Camille Claudel, avec des idioties, des gens qui ne connaissent pas à fond la vie de Camille Claudel ni Rodin, mais surtout Rodin est complètement décrié en ce moment sur les réseaux sociaux, oui. En disant qu'il a abandonné Camille. S'il y en a un qui a soutenu Camille jusqu'à sa mort, oui. C'est vraiment Rodin.
Oui.
D'ailleurs, je voudrais pour ça illustrer cet engagement qu'il a eu, Rodin, par un autre extrait de notre spectacle.
Eugène Blot à Camille Claudel, novembre 1930. Lettre jamais reçue.
Chère Camille, j'avais perdu votre trace. Dans le monde combinard de la sculpture, Rodin, vous, aviez introduit l'authenticité. Cela ne s'oublie pas. Votre implorante, fondue par moi en bronze pour le salon de 1904, est le manifeste de la sculpture moderne. Vous étiez enfin vous-même libéré totalement de l'influence de Rodin, aussi grande par l'inspiration que par le métier. Avec vous, on allait quitter le monde des fausses apparences pour celui de l'abcès. Quel génie! Comment avez-vous pu nous priver de tant de beauté? Un jour que Rodin me rendait visite, je l'ai vu soudain s'immobiliser devant votre implorante, la contempler, caresser doucement le métal et pleurer. Oui, pleurer, comme un enfant. Voilà 15 ans qu'il est mort. En réalité, il n'aura jamais aimé que vous, Camille. Je puis le dire aujourd'hui. Tout le reste, ses aventures pitoyables, cette ridicule vie mondaine, lui qui, dans le fond, restait un homme du peuple, c'était l'exutoire d'une nature excessive. Oh, je sais bien, Camille, qu'il vous a abandonné. Je ne cherche pas à le justifier. Vous avez trop souffert par lui. Mais je ne retire rien de ce que je viens d'écrire. Le temps remettra tout en place. Avec mon affection et mon respect, votre Eugène Blot.
Voilà, c'était une lettre fantastique de Eugène Blot, une lettre qu'elle n'a jamais reçue, et qui montre bien vraiment l'affection et l'amour qu'avait conservé Rodin pour Camille. Alors bien entendu, Rodin est parti avec Rose Beuret, sa femme, mais bon, c'est pour moi c'est simplement un épisode, il l'a vraiment adoré.
Oui. On va peut-être écouter cette musique qui accompagne donc ce spectacle.
Oui.
Hein?
Alors,
ami, où vas-tu? Que la mort me serait douce, et comme mon agonie est longue, à quelle douleur j'étais destiné. Camille, ma bien-aimée, malgré la folie que je sens venir et qui sera votre œuvre, j'abandonne mon salon. La sculpture, si je pouvais aller n'importe où, dans un pays où j'oublierais. Et pitié, méchante, je n'en puis plus. Je ne puis plus passer un jour sans te voir. Et je ne travaille plus, divinité malfaisante, et pourtant je t'aime avec fureur. Ma Camille,
Mon âme t'appartient, fleur qui parle et qui aime, ma chérie, ma très bonne, à deux genoux devant ton beau corps que j'étreins.
Voilà. Vu l'heure, on pourrait peut-être enchaîner sur les autres enregistrements de ce spectacle.
Oui, oui. Il y a aussi un passage très émouvant où Camille, son frère Paul, a toujours vénéré l'œuvre de sa sœur. Il n'en a plus parlé après, mais de son vivant, oui. Il a été vraiment d'une lucidité extrême par rapport à l'œuvre de sa sœur. D'ailleurs, il le dit, en somme, l'œuvre de ma sœur, c'est toute sa vie.
Camille a bien trouvé de l'or. Puis ce fut l'âge mûr, la détresse de Camille étalée sur la place. L'âge mûr, une œuvre étonnante, inouïe.
L'âge mûr, un moment pétrifié, un regard pétrifié, une situation pétrifiée. Ce qu'il aurait fallu des pages à une partition, des chapitres à un roman pour nous montrer dans le miroir le miracle de la simultanéité d'un seul coup en plein visage nous le fulgure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Que la musique est de Raphaël Bray, hein, qui est avec nous là. Et peut-être nous pourrions enchaîner également sur la voix de Patrick Sabourin, qui représentera donc Paul Claudel. Oui, ça. On y va.
Interdite d'enfant, interdite d'enfant, interdite d'enfant.
Cher ami, une personne de qui je suis très proche a commis le même crime que vous. Elle l'expie depuis 26 ans dans une maison de fous. Tuer un enfant, tuer une âme immortelle, c'est horrible. Comment pouvez-vous vivre et respirer avec un tel crime sur la conscience? Je ne vous parle pas avec l'indignation d'un pharisien, mais avec la compassion d'un frère.
Voilà, Paul Claudel condamne sa sœur en disant qu'elle l'expie ce crime parce que Camille Claudel avait eu 3 ou 4 avortements. Et à l'époque, vous savez, c'était la peine de mort.
Oui, oui, oui.
Et elle s'est débrouillée toute seule. Oui. Voilà, donc avec le puritanisme de son frère, ça a été terrible pour elle aussi. Mais ce qui est paradoxalement, il a tout le temps rendu un hommage formidable et après sa mort. Oui. Et on peut écouter d'ailleurs l'inventaire qu'il fait sur l'œuvre sur l'œuvre de sa sœur et son constat.
Ce qui lui donne son intérêt unique, c'est que tout entière, elle est l'histoire de sa vie. Des monuments terribles, dont chacun marque une étape de l'affreux calvaire, et dont la glaise a été pétrie avec de l'âme et du sang. Certains d'une telle force, d'une telle sincérité, à la fois d'amour, de désespoir et de haine, qu'ils outrepassent les limites de l'art où ils ont été réalisés. L'esprit qui les a conçus dans un suprême flamboiement n'avait plus qu'à s'éteindre. Le reste est silence. 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 Silence.
Et on peut écouter pour terminer cet hommage à Camille Claudel, la conclusion de notre spectacle avec la voix de Michel Auster, dont j'ai appris le décès à la dernière représentation au théâtre Garonne. Juste après le spectacle, Jacques Ouaillon m'a fait savoir que la voix que je viens d'entendre n'est plus.
N'est plus. Nous l'écoutons.
Alors, c'est une conclusion terrible qui dure très peu de temps sur l'œuvre de Camille Claudel et surtout son enterrement qui a été vraiment horrible.
À Villeneuve-sur-Fer, une modeste plaque rappelle aux visiteurs curieux que Camille Claudel a vécu là, autrefois. Mais les restes de sa dépouille sont toujours en exil dans une fosse commune, mélangée à ceux des plus indigents. À quelques pas du lieu où elle fut interdite et séquestrée pendant 30 ans. Sa mère et sa sœur Louise ne sont jamais venues la voir à Montevergue. À son enterrement, le 21 octobre 1943, au cimetière de Montfavet, pas même la présence de son frère Paul.
Paul, mon petit Paul.
Voilà. La tragédie a pris fin, là. Oui. C'est quand même terrible, cette histoire de Camille Claudel.
C'est terrible, oui.
Terrible sur... on pourrait en parler longtemps. Mais sur le plan de l'enfermement, déjà, et de quel droit peut-on enfermer quelqu'un, quand même, aussi pendant 30 ans, sans qu'il y ait eu le moindre, le moindre contrôle
On le dit encore, elle était paranoïaque, elle était schizophrène, elle est morte de faim.
Oui,
c'est tout simplement.
Parce qu'en 1943.
Sûrement d'un AVC. Oui. Mais. Ce qui est terrible, c'est... Alors, il y a une démarche, je ne sais pas si je vous l'ai dit,
De panthéonisation,
portée par André Castelli.
Oui.
Voilà. Mais on croit connaître Camille Claudel. Il me semble qu'on les connaît très bien sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement d'erreurs et de choses qui n'ont pas existé. On devrait se documenter surtout sur les derniers livres qu'il y a eu sur Camille Claudel, notamment ce livre « L'abandonné » de André Castelli.
Donc, ce spectacle est passé... Donc,
alors, ce spectacle est passé tout récemment au CH Marchand, où il a été ovationné sur 3 représentations. Oui. Et il va suivre
le... Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume.
André Castelli qui fait cette démarche de pantomisation.
C'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume.
En tout cas, merci
avec des pas d'oiseaux sous l'air des chansons.
Rarement, merci beaucoup. Et donc, à la semaine prochaine.
Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine. Leur souffle dans les
bouteilles
qu'ils n'ont jamais vendues. Leur femme
de vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Chétanie. À la semaine prochaine.